La crise du coronavirus doit-elle nous interroger sur notre modèle de société? Que dit-elle du rapport que nous entretenons avec nos espaces naturels? Et doit-elle nous obliger à repenser nos relations avec la nature? Ces questions, pourtant anciennes, refont surface depuis 2 mois de manière plus prégnante, plus urgente. Bonjour Marion Weber.
Bonjour.
Responsable des programmes à la Fondation France Liberté. Alors depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19, c'est un mammifère qui est pointé du doigt. Croisé sur un marché de Wuhan en Chine, le pangolin serait à l'origine de cette crise sanitaire mondiale. Est-ce qu'on doit en faire un bouc émissaire ou est-ce que c'est juste un symbole révélateur d'autre chose?
Oui, c'est très intéressant en fait cette crise parce qu'on pointe du doigt ce pangolin. Certains même vont pointer jusqu'aux Chinois, donc on a des relents xénophobes quand même qui refont surface aussi. Mais en fait, non, le problème, comme vous le disiez en introduction, c'est bien le modèle de société, puisque on le voit en fait, le Covid-19 est lié a priori, hein, même si les recherches sont encore en cours, à un virus qui est d'abord présent chez la chauve-souris, mais puis chez le pangolin. Et peut-être même un troisième hôte. Et donc en fait, ce qu'on note, c'est notre modèle de société, le modèle dominant en fait, à savoir le capitalisme, une conception dominatrice, exploitatrice de la nature, qui cause de nouveaux virus qu'on appelle les zoonoses, et qui font que en fait, des animaux sauvages se rapprochent des humains et nous transmettent les virus dont ils sont les hôtes.
Alors, qu'est-ce qui a favorisé cette transmission, cette destruction des remparts entre les espèces ?
Avec cette logique qu'il y a derrière notre modèle de société où la nature est à notre disposition et on va l'exploiter pour nos besoins ou le profit de quelques-uns, on va effectivement déforester massivement. Et en déforestant, on expulse quelque part les animaux de leur habitat habituel et ils se rapprochent forcément des zones où les humains vivent ou bien où vivent nos animaux d'élevage, on va dire. Mais il y a aussi effectivement le braconnage, ce qui est le cas pour la crise du Covid actuelle. Donc l'idée de venir dans cette vision très très dominatrice en fait de la nature où on va exploiter des animaux pour des soi-disant vertus qu'elles pourraient avoir ou pour la richesse que vont procurer certaines parties du corps de ces animaux. Et ça c'est donc ce qui a causé effectivement le Covid, mais c'était aussi le cas pour par exemple le virus d'Ebola avec le braconnage de viande de brousse en Afrique. Il y a plein d'autres facteurs, par exemple l'élevage intensif, qui est d'ailleurs très lié à la déforestation. Ça va évidemment accroître la proximité entre les animaux sauvages qui sont donc expulsés de leur territoire et la proximité ensuite avec les animaux d'élevage, puis avec l'homme.
Ça met donc en danger la diversité des espèces et ce n'est pas sans conséquence.
C'est le fait qu'en fait on perde en nombre d'espèces chaque année, mais aussi dans la diversité au sein même d'une espèce, qui fait que le virus se propage plus facilement. En fait, plus une espèce est diverse, plus le virus a du mal à se propager. Et donc, en fempt, finalement, la biodiversité, c'est un excellent rempart naturel face aux maladies. Sauf que là, on le voit très bien, la biodiversité aujourd'hui est en péril. On parle de pourcentages vraiment très importants d'espèces qui sont menacées de disparition et d'une perte de la diversité au sein même des espèces. Donc, on a vraiment un risque accru, en fait. C'est un accélérateur potentiel des virus. Et puis, évidemment, le modèle de société actuel très mondialisé ne fait qu'empirer ce genre de virus qui se propage plus facilement à l'échelle mondiale et qui est vraiment le reflet de cette société de l'excès, cette société des échanges multiples.
Alors, depuis quelques semaines, de nombreuses tribunes ont dénoncé les excès de la mondialisation en estimant que cette crise sanitaire a pour origine la crise écologique. Si on ne change rien, de nouvelles pandémies apparaîtront ?
Oui. On en a déjà eu plein ces dernières années, sauf que maintenant, avec cette crise qui est véritablement mondiale, dramatique, on prend davantage conscience, je pense, aujourd'hui, effectivement, du lien entre nouvelles maladies et ce rapport à la nature destructeur. Et effectivement, en fait, cette crise écologique, il faut absolument qu'on en ait conscience parce que, par exemple, le changement climatique qui est en cours pourrait encore venir accélérer d'autres maladies. Je pense notamment à la fonte du permafrost, c'est ces sols qui sont gelés actuellement dans certaines régions du monde, notamment au niveau des pôles, qui contiennent dans la glace en fait des potentiels virus, bactéries passées, contre lesquels probablement l'homme ne pourra pas non plus se défendre. Donc on est vraiment sur un lien entre crise écologique et santé, qui ne fait plus aucun doute, où les scientifiques ont alerté depuis des années déjà. Sauf que là, ils se font davantage entendre parce qu'on est face à quelque chose qui nous touche tous, en fait.
Alors, pour éviter ces nouvelles pandémies, il faut donc un changement radical de nos comportements et remettre en cause les interactions entre les humains et la biodiversité. Quelles sont les pistes ?
Il faut, en fait, rompre radicalement avec ces modèles de société-là. Quelques personnes, en fait, sont en train de se positionner et de dresser finalement une liste de solutions. Alors, ça va de relocaliser à stopper les projets miniers, à plein d'autres pistes, en fait, qui sont dressées. Mais ce qu'il faut, à notre sens, en tout cas, la Fondation bien comprendre, c'est qu'on est dans une crise qui est d'ordre systémique. C'est tout le système qui est en cause, qui interagit entre l'économie, le social, l'écologique, et qui doit être repensé. Et en fait, finalement, ce qu'il faut retrouver, c'est du bon sens. C'est ce que Daniel Mitterrand ne cessait de répéter. Ayons un peu plus de bon sens. Et on voit bien que nos sociétés ne sont pas durables, on sait qu'on va dans le mur. Mais pour certains, finalement, le profit, la rentabilité immédiate, est prioritaire. Ça, c'est ne pas penser aux générations futures. Voilà, c'est retrouver du bon sens et surtout essayer de se réinterroger plus profondément sur ce rapport à la nature.
Alors sur quel levier faut-il jouer et quel rôle joue la Fondation dans cette révolution nécessaire?
Ça fait des années qu'on met en avant ce constat de crise écologique, quand on dénonçait l'extractivisme, les projets miniers, quand on dénonce la biopiraterie, le fait de s'approprier des savoirs et de marchandiser le vivant par les brevets. Ben, en fait, on dénonce une certaine vision de la nature, qui est une vision d'une nature qui est à notre disposition, qui est exploitable, marchandisable, privatisable. Donc, je peux être propriétaire d'un élément de la nature, qui est complètement délirante et qui, et c'est là où c'est intéressant, et c'est propre qu'à quelques individus et sociétés organisées, mais qui s'est répandue comme la norme dominante, qui a fait en fait effet boule de neige et qui aujourd'hui nous domine le système de société. Sauf que si on prend du recul, et notamment qu'on va voir les façons de penser le rapport à la nature d'autres sociétés, notamment les peuples autochtones, bah c'est extrêmement intéressant et c'est ce que la Fondation aussi a longuement fait, c'est de mettre en avant les autres rapports en fait que d'autres sociétés ont avec ce que nous on appelle nature, mais ce que eux n'ont pas forcément de mots pour expliquer cette idée de nature, et donc de montrer que pour d'autres, c'est une évidence que l'humain fait partie du vivant, n'est pas au-dessus des autres animaux, n'est pas au-dessus du reste des non-humains, donc la flore, etc. Et que l'objectif de leur société est une recherche du bien-vivre.
Et les peuples autochtones ont donc beaucoup à nous apprendre pour regarder le monde autrement.
C'est vrai que le travail de la Fondation avec ces peuples a permis aussi de prendre du recul et de se décentrer et de se rendre compte que ce rapport à la nature n'est pas du tout un rapport universel que tout être humain entretiendrait avec le reste des non-humains, mais un rapport qui s'est construit au fur et à mesure. Leur donner la parole, faire connaître, documenter ces façons-là, c'est ce que la Fondation a fait et va continuer de faire plus fortement, en alliance d'ailleurs aussi avec des scientifiques, des juristes aussi, qui sont en train de repenser le droit, parce que le droit est le reflet en fait de notre société. Et le droit aujourd'hui, il est extrêmement construit en lien avec l'homme, à savoir le droit environnemental n'est pensé que en fonction du préjudice que ça cause à l'homme, et pas le préjudice que ça cause à l'écosystème en tant que tel pour sa valeur en soi. Et donc de repenser en fait la façon dont on fait le droit. Donc il y a plein de pistes qui se dessinent, qui sont en train de prendre de plus en plus de force et de place dans le débat, mais notre rôle ce sera de les appuyer, de les faire connaître davantage.
Et les actions de la Fondation sont à retrouver sur france-liberté.org. Merci Marion Weber.
Merci à vous.
Monde solidaire à retrouver sur fréquence terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.